Et bonsoir sur les ondes de Radio Larzac, c'est Showtime qui prend l'antenne pour son épisode mensuel. Showtime saison 11, épisode 2, on y va. Et ouais, et si on n'appuie pas sur certains boutons, on est un petit peu coincé, n'est-ce pas? Oula, c'est bon, je parle pas trop près. Les aléas de la technique, enfin bref, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Showtime, votre émission sur le partage de la passion du cinéma et de la pop culture sur les ondes de Radio Larzac. Showtime, c'est une émission qui dure depuis 11 saisons déjà, et dont voici le second épisode. Au programme de ce mois de novembre, je vais revenir sur ce qui m'a marqué en vous parlant actu et en vous donnant des avis. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Showtime saison 11 épisode 2, on y va. Petite introduction en vous parlant un petit peu de ce nouveau générique qui est inspiré tout de même d'un jeu vidéo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle Alan Wake 2. Le morceau inspiré de ce générique s'appelle Herald of Darkness des Old Gods of Asgard. Et justement, je vais vous en parler un petit peu plus de ce jeu dans l'actu. Car oui, ce jeu sorti fin octobre présente une œuvre assez atypique puisqu'elle mêle habilement jeux vidéo, cinéma et bien d'autres choses. C'est comme ça qu'on arrive à suivre les aventures d'un écrivain 13 ans après son premier opus, parce que le premier Alan Wake est sorti quand même il y a 13 ans de cela, il a fallu attendre 13 ans pour découvrir la suite de ces mésaventures, justement, qui mixent habilement tout ce que j'ai pu citer, jeux vidéo, cinéma, et j'en passe. Et justement, il a été nominé aux Game Awards qui arrivent prochainement dans de nombreuses catégories. Et oui, les jeux vidéo ont leur cérémonie, un petit peu à l'image des Oscars. Ça récompense beaucoup de choses, dont voici quelques catégories. Jeu de l'année, meilleure direction, meilleure narration, meilleure direction artistique, meilleure bande-son, meilleur design audio, meilleure performance pour les personnes qui prêtent leur voix ou encore leur corps, puisqu'il y a des acteurs qui viennent à jouer dans les jeux vidéo. Meilleur jeu mettant en avant l'accessibilité, ça c'est les mécaniques qui permettent aux personnes qui ont des difficultés, malvoyants, malentendants ou quoi que ce soit, de pouvoir profiter pleinement des expériences qui leur sont proposées. Les jeux ayant un message, meilleur jeu service et support, meilleur support communautaire, meilleur jeu indépendant, etc., etc. Vraiment, il y en a beaucoup. Et justement, Alan Wake préfigure dans pas moins de 8 catégories, dont jeu de l'année, meilleure direction, meilleure narration, et j'en passe. Et meilleure bande-son. Vraiment, Alan Wake, si vous êtes un petit peu curieux, et sans trop vous spoiler le jeu, n'hésitez pas à regarder sur internet des vidéos de la mission qui s'appelle We Sing en anglais. C'est l'une des meilleures expériences vidéoludiques qu'il m'ait été donné de voir. Vraiment, c'est juste dingue. Mais ce n'est pas que sur ça sur lequel je voulais revenir au cours de cette actualité, puisqu'il y a peu, on a pu découvrir la première bande-annonce du film Madame Web. Alors, Madame Web, faut que je vous explique un petit peu le contexte de ce que c'est. C'est un film issu d'un personnage de comics de l'univers Marvel. Cependant, ce n'est pas Marvel Studios qui est derrière ce long-métrage, mais c'est Sony Pictures Entertainment. Comment ça se fait ? En 98, Marvel va pas très bien et vend les droits d'adaptation de certains de ses personnages à des studios. Sony récupère les droits des personnages issus de l'univers de Spider-Man. Bon, au début, on sait ce qu'il en a été, ça a surtout été la première trilogie de Raimi, et ensuite, avec le succès de l'univers cinématographique Marvel, Sony se dit pourquoi on ne ferait pas la même chose, mais avec les personnages issus de l'univers de Spider-Man. C'est comme ça qu'ils essaient de lancer le truc avec The Amazing Spider-Man. Bon, ça n'aura pas spécialement bien marché. Mais, pour autant, ils ne baissent pas les bras. Et c'est comme ça que nous arrivent des films comme Venom. Venom, il est sorti quand ? Je regarde vite fait la date. En 2018. Ensuite, il y a eu Venom Let There Be Carnage en 2021, Morbius en 2022, et là, nous arrive pour le 14 février 2024, Madame Web. Mais qui est donc Madame Web ? Cassandra Web est une ambulancière de Manhattan qui serait capable de voir dans le futur. Forcée de faire face à des révélations sur son passé, elle noue une relation avec trois jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun. Si toutefois elles parviennent à survivre à un présent mortel. Ça marche mieux quand on met les formes et la ponctuation quand on lit. C'est un film de S.J. Clarkson qui a toute une genèse et développement que je ne vous lirai pas maintenant, peut-être à sa sortie, si je viens à en faire une animation ou à le visionner. Mais sachez que c'est quand même Dakota Johnson qui incarne Cassandra Webb. Pour vous situer un petit peu le personnage, et comme ça a été expliqué dans le synopsis du film, Cassandra Webb, Madame Webb, peut lire, voir le futur, lire l'avenir, et tout cela parce qu'elle a une certaine connexion avec la toile, ce qui relie tous les Spider-Man entre eux. Je vous passe les détails, c'est un petit peu complexe, mais je pense qu'avec ce film, on va justement au-devant de cette complexité. Allez, j'en dis pas plus, bande-annonce.
Come on, get your stuff. Let's go. Let's try that again. A week ago, I spent my life racing against time.
I'm gonna help you out today, okay?
Trying to save people who were running out of it.
Jesse!
Until one moment changed everything.
Come on!
Welcome back to the land that we're living.
I don't understand what's happening. I've been having visions. I knew he was gonna die. I think I'm seeing the future.
New York City's a whole new level of crazy these days.
What do you want from me? What do you want?
New York City's a whole new level of crazy these days.
This is an emergency. Get off the train.
That man's trying to kill you.
What?
Who are you?
What is going on?
I can see the future.
Oh, what the hell?
She didn't see that coming?
That's not how it works.
I've seen that man before.
So who is he?
Ezekiel Sims. He was in the Amazon with my mom when she was researching spiders right before she died.
Wait, I recognize you. You live in my building.
You're the paramedic.
Well, yeah, you almost ran me over.
You don't think this is weird, how we're all connected?
It's honestly like the least weird thing that's happened all day.
What do you want from me?
You have no idea what those girls are coming.
Why don't you want from me?
I think he can see into the future.
What are you
He's trying to change what happens. Julia, get down!
Why aren't you scared of me? Why do you care for me?
Your future was almost so different.
Why do we?
If you want to live, you have to trust me.
Get ready. Now!
You're showing off.
Maybe a little.
Je ne sais pas trop quoi en penser. Autant ça peut intriguer sur certains aspects, parce que on va aller droit dans le lore, ce qui fait l'univers de Spider-Man comme il a pu être développé fut un temps, avec la notion de Spider-Totem, ce sont les personnages qui ont des pouvoirs semblables à ceux de Spider-Man. Ça va être le cas ici, dirait-on, avec déjà... beaucoup de Spider-Girl, hein, parce que quand on regarde la bande-annonce, il y a plusieurs personnages qui vont interagir avec Cassandra Webb, et on dirait que comme sur une certaine situation, elle intervient sur le cours du temps de l'histoire, ça amène la création, ça devrait amener la création, je ne sais pas trop, mais de personnages qui ont des capacités semblables à celles de Spider-Man. Donc notre quatuor féminin, et elles sont traquées par un personnage du nom de Ezekiel. Ezekiel, lui, il est un petit peu particulier, puisque, comment vous dire les choses, dans les comics, il est autant allié qu'ennemi, il cherche à préserver justement Spider-Man d'une sorte de groupuscule de... d'immortels, de vampires immortels qui s'abreuvent justement des Spider-Totems, des personnages qui ont les capacités de Spider-Man. Ici, je sais pas, ça risque de passer, ça passe ou ça casse. Concrètement, je suis curieux, à savoir si c'est de la curiosité morbide ou pas. Déjà, le costume d'Ezekiel, moyen convaincu. L'interprétation de Dakota Johnson... Waouh, juste, je ne sais pas si vous avez fait la nuance sur ce petit sursaut qu'elle a un moment au tout début de la bande-annonce. Je l'ai regardé en VF et en VO hier, et que ce soit en VF ou en VO, c'est super pas bien joué. Après, c'est qu'une bande-annonce. On peut s'attendre à, pourquoi pas, quelques petites surprises. Mais voilà, à voir. Déjà, ça sort le 14 février, ça prend... la place du prochain film de l'univers cinématographique de Sony autour de Spider-Man, qui était Kraven. Parce que Kraven, ça devait sortir sur cette fin d'année 2023, sur la fin d'année 2023, mais ça a été reporté à cause de la grève des scénaristes et acteurs qui a eu lieu outre-Atlantique. Kraven, avec Aaron Taylor-Johnson, ça me rend curieux. Vraiment, si c'est bien fait, bien amené, j'espère d'une meilleure manière que Morbius, mais ça pourrait être une bonne alternative à un genre super-héroïque qui, ne le cachons pas, s'essouffle un petit peu, mais ça, j'y reviendrai plus tard dans cette émission. Mais oui, du coup, ça prend la place de Kraven. Kraven devait peut-être amener des choses pour la suite. Et peut-être que Madame Webb devait rebondir sur ces éléments. Du coup, ça risque de créer une situation un petit peu à l'image de ce que fut Spider-Man No Way Home, qui devait être une suite à Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais au final, pour ces deux films, ça a été l'inverse. Et du coup, avec Madame Webb et Kraven, on se trouve un petit peu dans cette situation. Et dans certains aspects, là aussi, hein, ça passe ou ça casse. Bref. Moi, c'était la bande-annonce qui a retenu mon attention et dont je tenais à, vous partager. Je vous propose qu'on enchaîne avec le premier avis de cet épisode du mois de novembre. It's showtime. Donc, dans ce premier avis, je vous propose de vous parler du film Five Nights at Freddy's. Ou FNAF, de son diminutif, est un film de Emma Tammy sorti le 8 novembre 2023 dans les salles obscures françaises. Et j'ai pu avoir la chance de le voir en avant-première au cours d'une soirée Halloween dans le cinéma de ma ville. Five Nights at Freddy's, c'est l'adaptation de la série de jeux vidéo à succès du même nom de Scott Cawthon, dont le premier épisode date tout de même de 2014. Ça se présente sous la forme d'un point and click, catégorie de jeu où il faut cliquer sur des éléments du décor, de son environnement pour amener des actions, interactions. Ici, il faudra survivre 5 nuits dans la pizzeria Freddy's Fazbear. Pourquoi survivre ? Car il va falloir tenir jusqu'à 6h du matin et espérer ainsi échapper aux animatroniques qui nous pourchasseront tout du long de la nuit. C'est pour ça qu'il va falloir interagir avec son environnement pour justement y réchapper, y survivre à Freddy's et ses compères. Avec un tel succès, une adaptation cinématographique semble des plus logiques. Surtout avec le genre de l'horreur qui, bien amené, peut devenir une poule aux œufs d'or pour les studios et producteurs. C'est comme ça qu'en 2015, la Warner tente de donner vie au projet avec Gil Kenan à la réalisation. Bien entendu, dès le premier jour de développement du film, Scott Cawthon est là pour s'assurer que cette adaptation soit quelque chose que les fans aient hâte de voir. C'est ainsi qu'en 2017, le monsieur annonce sur X feu Twitter que la Blumhouse Production va produire le film. En février 2018, nous apprenons que Chris Columbus est annoncé comme réalisateur et scénariste du film. En 2021, Jason Blum annonce que Chris Columbus n'est plus associé au projet, mais qu'il est toujours en développement. En août 2022, le producteur annonce que Jim Henson Creature Shop va concevoir les animatroniques du film. En octobre de la même année, Emma Tammy est annoncée à la réalisation en plus de soutenir Scott Cawthon à l'écriture du scénario. Et c'est en décembre que Josh Hutcherson, ce cher acteur qui a joué dans Hunger Games, a été annoncé comme la tête d'affiche du film. Le tournage, quant à lui, s'est étalé de février 2023 à avril 2023 sous le nom, très drôle je trouve, de Bad Cupcake. Le tout a coûté 20 millions à la Blumhouse. Et comme il est sorti tout récemment, nous n'avons pas encore de chiffres quant à son box-office mondial. Et ben voilà, pour une fois que j'ai quelques petites informations à vous donner sur la pré-production-production du film, ça fait plaisir. Allez, synopsis. Interdit aux moins de 12 ans. C'est ce qui est annoncé sur un site qui commence par Allo et qui finit par Ciné. Mike, jeune homme perturbé, s'occupe de sa sœur Abby, âgée de 10 ans. Il est toujours hanté par la disparition, jamais élucidée, de son petit frère, survenu il y a une dizaine d'années. Récemment licencié, il a absolument besoin de retrouver un emploi pour ne pas perdre la garde d'Abby. Il accepte donc un poste de gardien de nuit dans un restaurant désaffecté, Freddy Fazbear's Pizzeria. Mais Mike ne tarde pas à comprendre que les apparences y sont terriblement trompeuses. Avec l'aide de Vanessa Shelley, agent de police, il est confronté la nuit à des phénomènes surnaturels, inexplicables, et bascule dans un univers cauchemardesque. Putain, le synopsis est plus vendeur que le film. Je vous explique, car oui, Five Nights at Freddy's, ça vaut quoi?
Tout ce que vous avez à faire, c'est surveiller les écrans.
Bienvenue chez Freddy Fazbear's Pizza, où les rêves les plus fous prennent vie.
Mais oui, bien sûr.
Vous devez être le nouvel agent de sécurité.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Vous les avez déjà rencontrés?
Qui ça?
Eux.
Au moins, pour le coup, j'aurais eu plus à en dire, comme je vous l'ai précisé, sur la pré-production du film, bah que je pense que sur ce que je vais vous dire sur le film en lui-même, parce que c'est pas plus à dire. Habituellement, j'aime bien décortiquer un petit peu la première partie du film, mais là, bah non, parce que j'ai essayé d'y croire, vraiment, j'y ai mis tout mon cœur, surtout au début, où l'on voit l'ombre de Foxy se dessiner sur un mur sous fond d'effets lumineux.
Zetsu. Je n'ai pas eu plus à en tirer visuellement parlant du film de Emma Tami. C'est son premier gros projet. Hein. Des recherches que j'ai fait, hein, sa filmographie est assez légère. Car oui, ce film est assez classique dans son déroulé, dans sa manière d'être filmé. À comparatif avec L'Exorciste Dévotion, ici Five Nights at Freddy's est assez générique. L'histoire est bateau et tient plus du film fantastique que du film d'horreur. C'est vous dire, on s'attache plus à la petite fille qu'à notre personnage principal. Un sentiment de proximité qui aide plus à voir FNAF comme un film fantastique plutôt qu'un film d'horreur. Et je ne vous parle même pas des autres personnages du film. C'est important, les personnages dans un film d'horreur. Ça va aider à se prêter au jeu de la peur ou à jubiler face au carnage à venir. Mais non, notre protagoniste est pas des plus intéressants. Désolé Josh Hutcherson, mais même dans Hunger Games, j'étais pas des plus fans. Elizabeth Lail, oh putain, je lis sa filmographie et je vois qu'elle a prêté ses traits à Anna de la Reine des Neiges dans la série Once Upon a Time. Ok. Dans tous les cas, t'étais beaucoup plus convaincante dans You. Ou dans d'autres films de ta filmographie. Ici, bah, on se doute qu'elle cache quelque chose. C'est assez prévisible, putain. Et je ne vous parle même pas du comportement complètement à l'ouest de certains des autres persos. Comme vous l'avez compris dans le synopsis, Mike, pas le Mike, est dans la galère. C'est comme ça qu'il arrive à trouver le job. Et certains de ses opposants, pour qu'il perde son job et la garde de sa sœur, ils se disent « Ah, bah on va saccager son nouveau lieu de travail en pleine journée !» À quel moment ? Pour multiplier les risques qu'il perde son boulot, fait ça de nuit, montre qu'il n'est pas compétent, surtout qu'on voit bien qu'il a quelques petits soucis de santé physique et mentale. Il s'endort assez couramment au taf. Mais voilà, pendant qu'il dort, saccage le truc, fait quelque chose. Là, en plein jour, quoi. Je sais pas, mais Willis faisait mieux les choses. Bien que Willis ne soit pas un scénario abandonné de Five Nights at Freddy's ou quoi que ce soit, c'est vraiment un projet à part entière, même s'il y a des liens assez proches. Mais enfin, heureusement qu'il y a les animatroniques pour régaler les yeux, ils vous font douter de leur réalité. Effet pratique ou effet numérique? De ce que j'ai cru lire, il y a pas mal d'effets pratiques. Et ça fait plaisir. En bref!
D'accord, et restons zen.
Bah, ici encore, je n'ai pas plus que ça à dire. Si vous voulez un film sympathique à regarder éventuellement avec votre enfant, car même pas déconseillé à un âge avancé aux US, il est que PG-14, hein. Ok, c'est déconseillé au moins de 13 ans avec recommandation plus que souhaitable d'accompagnement par un parent. Mais attendez! Aux US, dans cette classification, on y trouve les Star Wars. Dites-vous donc que oui, au niveau du gore, on frôle le quasi zéro. Même Gremlins pourrait paraître plus glauque à côté. Et en plus, Five Nights at Freddy's est long. Trop long. Faut arrêter avec les films d'horreur qui durent plus d'une heure trente. Bon, ça va. Il passe bien quand même. Mais c'est un peu comme les derniers Marvel. Tu le prends, tu le manges, tu l'oublies. En soi, Five Nights at Freddy's ou FNAF de Emma Tami, c'est à voir pour s'en faire une idée. C'est quand même une nouvelle adaptation de jeu vidéo. Mais au point de le revoir, ouais non, je pense pas. Sur 5 ?
Les fantômes des gamins possèdent les robots géants.
Comment on les arrête ?
On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive.
c'était Willy's Wonderland par Emoy, tiré de la bande originale du film Willy's Wonderland de Kevin Lewis. Pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce morceau-là plutôt qu'un morceau tiré de la bande originale de Five Nights at Freddy's ? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas vraiment retenu de morceaux hein, de la bande originale de Five Nights at Freddy's, une bande originale signée par The Newton Brothers. Et c'est un petit peu tristouné quand même, parce que en plus des personnages, waouh, je suis sur la fiche de Five Nights at Freddy's et je vois que il y a Stu de Scream, du premier Scream, l'acteur de, qui joue Stu, Matthew Lillard, qui joue dans Five Nights at Freddy's. Ben mon gars, t'as du mal vieillir parce que je t'ai pas reconnu. Revenons-en à la musique donc des Newton Brothers, qui m'a pas plus marqué que ça, comme je vous l'expliquais. Et au moins, dans Willy's Wonderland, il y avait une identité musicale tout de même, avec... bah oui, une musique qui vous transporte hein, tout du long du long métrage. Et en plus, au moins, Willy's Wonderland, c'est court, ça va à l'essentiel, ça dure moins d'une heure, ça dure pas 1h50 ou plus, hein, comme Five Nights at Freddy's. Après, le film a l'air de créer la surprise, puisque beaucoup semblent l'apprécier. Il y a pas mal de critiques positives, allez savoir pourquoi. Et ça a l'air de marcher au box-office, hein, même... parce que je pense que là, dans pas longtemps, ça va rentabiliser hein, son petit budget. Voilà, j'ai pas plus à vous en dire sur le coup, si ce n'est que oui, à l'occasion, hein, faut vraiment que je vous parle de Willy's Wonderland. Donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai un peu triché, parce que ce que vous avez entendu, cet avis, c'est un avis extrait hein, de mon nouveau concept vidéo audio, parce que oui, je suis fait des vidéos sur YouTube, et aussi... des podcasts, attention, spoiler alert, hein, j'ai souhait d'arriver à en vivre, de professionnaliser un petit peu ce que je fais ici aussi à Radio Larzac avec l'émission, en vous parlant ciné et pop culture, et c'est pour ça que j'essaie de faire des vidéos et de l'audio, un truc qui marche autant en visuel bah, qu'à l'écoute. Et voilà, donc si vous avez quoi que ce soit à me dire bah, sur ce nouveau concept que j'ai appelé le podcast ou sur l'émission ou quoi que ce soit, hein, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom de chatfouineur, chat-du-8fouineur, et également à l'adresse mail suivante oneroy.studio au pluriel, oneroy, O-N-E-I-R-O. i.studio donc au pluriel @outlook.com ou showtime.radiolarzac@gmail.com. Ceci étant dit, je vous propose que l'on passe au second avis du mois. It's showtime. Et pour ce second avis du mois, je me saisis de ma plus belle feuille puisque je vais vous parler du film The Marvels. Groovy. The Marvels est un film de Nia DaCosta. C'est sorti le 8 novembre dans les salles obscures françaises. C'est la suite du film Captain Marvel, qui date déjà de 2019. Et c'est également la suite de plusieurs séries du Marvel Cinematic Universe, que sont WandaVision, qui date de 2021, Miss Marvel 2022 et Secret Invasion 2023. Pour ne citer qu'elles. Captain Marvel, en 2019, avait réussi l'exploit pour le premier film solo féminin du MCU de réaliser un box-office de plus de 1 milliard. Le tout pour un budget aux alentours de 175 millions. Bref, des chiffres qui peuvent que confirmer une suite à venir. Rapidement, on commence alors à en parler. Que ce soit Brie Larson, l'interprète de Captain Marvel, que du côté des têtes pensantes de Marvel Studios. C'est comme ça qu'en juillet 2019, 4 mois après la date de sortie du 6 mars 2019 de Captain Marvel, qu'une suite est confirmée par Kevin Feige, le monsieur, derrière l'univers étendu Marvel Studios. En 2020, beaucoup de choses. Les réalisateurs du premier opus ne sont pas de la partie. Brie Larson revient encore heureux, une réalisatrice serait recherchée et le film sera attendu pour le 8 juillet 2022. En août 2020, Nia DaCosta est annoncée comme réalisatrice. Ils auraient envisagé Jamie Rabbit et Olivia Wilde. Intéressant ça. Faut vraiment que je vois Don't Worry Darling. Décembre 2020, le film est repoussé en novembre 2022. C'est le moment où Kevin Feige précise le retour des personnages de Monica Rambeau, vue dans WandaVision, et de Kamala Khan, héroïne de la série alors à venir, Miss Marvel. Et, wow, c'est que le tournage n'a pas eu l'air d'avoir été évident. Fin juillet, début août 2021, ça a commencé à tourner. Et bah, pendant le tournage, il y a eu des reports. C'est notamment comme ça qu'en octobre 2021, le film a été repoussé à février 2023. Puis, en avril 2022, le film a changé de place avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania pour juillet 2023. Histoire d'être au mieux peaufiné. Fin de tournage, courant mai 2022. Et non, mais l'horreur, quoi! Il y a eu des reshoots, des tournages de scènes complémentaires. Oh là 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 là! Pour vous expliquer, les reshoots, c'est, comme j'ai pu vite l'expliquer, des tournages de scènes complémentaires, voire de nouvelles visions d'une scène déjà tournée et donc retournée pour le film. En février 2023, le film est repoussé à la date du 10 novembre, outre-Atlantique. Pouah, 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 et encore je n'ai pas tout creusé, mais la jeunesse production de ce film n'a pas eu l'air des plus évidentes. Alors, qu'est-ce qu'il nous attend ? Synopsis. Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les Kree. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex étroitement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa super fan de Jasper City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du Saber. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels.
Heroes, it's an old-fashioned notion. But the world can still use them.
Ready.
Whatever it takes. Whatever it takes.
We destroyed Thanos. But it's not over.
My work is inevitable. There will always be more to finish it.
This is just the beginning.
She tore a hole in space. There's a different reality. Leading into ours.
What are you prepared to do?
I'm invincible. Your powers only make me stronger.
So you can't be matched. You can't be controlled. Asking for one last fight.
Monica!
You cannot protect your people.
But you can stand tall without standing alone.
They're here.
Marvels, rated PG-13.
Oh.
Monica, you gotta fly.
No.
Black Girl Magic!
c'était la bande-annonce finale de The Marvels, qui est donc sorti le 8 novembre chez nous et le 10 novembre outre-Atlantique. Nia DaCosta, je vous en parle rapidement, je vous en parle plus tard. Bon, allez, maintenant. C'est une réalisatrice qui a tout de même réalisé le reboot en date, c'est-à-dire le renouveau de Candyman. Ça fait un petit moment que je l'ai regardé. Peut-être qu'il faudrait que je le re-regarde pour que je puisse bien vous en parler, revenir un petit peu mieux sur cette réalisatrice. Du coup, le film. Ben, si vous le permettez, je vais rapidement vous resituer certains éléments du Marvel Cinematic Universe. Ça va peut-être vous aider à la compréhension de cet avis. Donc, pour ce qui est du personnage de Captain Marvel, à la suite des événements de Avengers Endgame, nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle. On l'a revue pour la dernière fois dans la dernière scène de la série Miss Marvel. Je me permets de le dire, hein, parce que voilà, jurisprudence, spoiler, ça fait quand même un an que c'est sorti, Miss Marvel. Donc on la revoit à ce moment-là. Miss Marvel, Kamala Khan, c'est une jeune adolescente fan de Captain Marvel qui se découvre dans la série Miss Marvel des pouvoirs liés à un bracelet. Bracelet que va chercher l'antagoniste du film. Pour ce qui est de Monica Rambeau, la dernière fois qu'on l'a vue, c'est à la suite des événements de WandaVision qui lui ont conféré des pouvoirs liés à la lumière. Elle se voyait recrutée par un Skrull, un alien métamorphe qu'on a pu découvrir dans Captain Marvel, enfin une race d'aliens métamorphes qu'on a pu découvrir dans Captain Marvel. Elle se voyait donc découvrir par un de ces extraterrestres pour rejoindre le Saber. Le Saber, c'est la station orbitale qui a pour but de protéger la Terre des menaces interstellaires et qui est bien sûr dirigée par Nick Fury. Nick Fury que nous avons vu pour la dernière fois dans Secret Invasion, qui quittait justement le Saber pour gérer une situation sur Terre et qui à la fin retournait sur le Saber pour continuer de veiller sur les étoiles, sur notre Terre. Voilà, je pense que j'ai situé un petit peu les différents personnages du film. Maintenant, parlons un petit peu plus de ce qu'il en est, de ce long métrage qui dure 1h45. C'est bien ça, c'est bien 1h45 au moins. Ça permet d'avoir affaire, de pouvoir visionner un film sympa, certes sans plus, mais du coup court et qui va à l'essentiel. Bon, là où le bât blesse, c'est que comme ça va à l'essentiel, ça coupe le bon développement de certaines situations, de certains aspects, notamment autour des relations entre les personnages et aussi concernant la vilaine. Une méchante qui est incarnée par l'actrice, je vous la retrouve, ou pas du tout, qui est incarnée par l'actrice, elle va pas vouloir apparaître. C'est une actrice britannique, si je dis pas de bêtises, Zoe Ashton, voilà. C'est elle qui joue la méchante, qui est pas déplaisante. Moi, c'est une caractérisation qui m'a plu. Certes, dans l'histoire, elle est présentée comme un personnage que l'on connaît, mais moi, à plusieurs reprises, je me dis, mais qui es-tu ? Pour autant, je trouve qu'elle est sympa. Et peut-être qu'elle aurait eu mérité plus par rapport à son sort, parce qu'on ne va pas se cacher que dans les films Marvel, sans trop en dévoiler, ils ont tendance à ne pas assez bien développer leurs antagonistes, et trop souvent ça tourne autour de l'usage unique pour un film. C'est-à-dire que malencontreusement, même si certaines portes peuvent être ouvertes, on ne les revoit pas dans d'autres films. Je pense que j'ai bien fait mon truc là. C'est aussi, ça va aussi me permettre de parler un petit peu de certaines des thématiques du film. Parce que oui, le film essaie quand même d'en explorer. On peut y retrouver l'absence déjà de Carol Danvers par rapport à certains de ses proches, notamment ça joue sur sa relation avec Monica Rambeau, tout comme la disparition de certains personnages lors de ce qui est appelé l'éclipse, le blip, le claquement de doigts de Thanos qui a fait disparaître pendant près de 5 ans des personnages dans l'univers Marvel. Ça, c'est abordé. Tout comme est aussi abordé la confiance en soi. Malheureusement, ce n'est qu'un sous-texte. Vraiment, ça souffre des 1h45 de films qui sont donc un bien comme un mal. Ça va me permettre de parler vite fait des relations entre les personnages, notamment dans notre petit trio là, car oui, d'un coup, on a affaire à une Carole qui est arrogante, c'est quand même la plus puissante héroïne du Marvel Cinematic Universe. Arrogante, sûre d'elle, qui est très dirigiste, hein. Elle envoie quand même un tir, hein, une bonne petite pique à Kamala lors d'une scène. Et juste après, bah, elle est toute câline, hein, au point même de faire de la corde à sauter, toutes les trois ensemble, hein, Kamala, elle et Monica. Ça peut donner certains aspects féministes, mais plutôt féministes clichés. Corde à sauter, câlin, chanson à la princesse Disney. Bon, ce dernier point n'est pas inintéressant, mais est-ce qu'il y en avait vraiment besoin pour le personnage de Carol Danvers ? Notons également des bonnes scènes d'humour qui ne cassent pas trop l'action, comme les blagues moyennes et hors sujet, hein, voire balancées à tort, hein, des autres films Marvel. Il y a donc des bonnes idées de réalisation. Je pense notamment autour de la situation que vivent nos héroïnes et qui était un petit peu expliquée, hein, dans le synopsis. Mais il va arriver un événement qui va faire que les pouvoirs des différentes de nos personnages vont s'entremêler et ça va faire que lorsqu'elles l'utilisent, elle s'échange de position, genre Carole utilise son pouvoir et en même temps Kamala l'utilise, du coup elles échangent de place et ça amène des situations cocasses, intéressantes, mais surtout des chorégraphies intéressantes, vraiment les chorégraphies, moi j'ai beaucoup apprécié, surtout que je me cache pas, et si vous avez écouté des épisodes passés de mon émission, mais j'apprécie beaucoup le tokusatsu, c'est l'art des effets spéciaux au Japon, et ça joue beaucoup justement des chorégraphies, et là franchement c'était superbe à voir. Et ensuite, oui, la question qui blesse, qui fâche notamment avec les productions Marvel ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il en est des effets spéciaux, des VFX ? C'est les effets qui jouent surtout de la 3D. Ils sont pas trop vilains. Ils font leur petit effet. Certes, il y en a certains qui sont un petit peu grossiers, mais on ne saigne pas autant des yeux que face à un Ant-Man et la guêpe Quantumania. Ces incrustations approximatives, ce Modok, cet antagoniste tout en 3D, oh là là, j'en ai encore des vertiges, rien que d'y penser. Et parlons un peu de la photo aussi, mais vraiment, comme ça va à l'essentiel, qu'il y a des couleurs très pop, etc., ça donne aussi l'impression de voir un comics en live. La musique de Laura Cartman résonne dans nos petites oreilles et on arrive à les retenir. Et je pense avoir dit le gros de ce que j'avais à en dire. Du coup, en bref.
D'accord, et restons zen.
Faudra que je le retravaille un petit peu ce son. Mais oui, en bref, The Marvel, moi j'ai bien apprécié. Je n'ai pas boudé mon plaisir pendant ces 1h45. Encore une fois, c'est cool, ça va à l'essentiel. Il y a des bons moments, il y a des moments, enfin, notamment les moments où, de téléportation qui amènent des chorégraphies intéressantes. C'est dommage, ça va trop rapidement au niveau des interactions entre les personnages. Le personnage de Nick Fury est là, mais est tout de même un petit peu en retrait. Hein. C'est du Samuel L. Jackson en roue libre. Et pour ce qui est, il y a un aspect que je voulais... Ah oui. Et le récit se permet justement des bonnes pauses par moment, notamment au niveau de ce cher Goose, hein, le chat, hein, signature du film Captain Marvel, le chat qui nous a tous vraiment marqué. Ben, il amène pour moi une séquence que j'ai beaucoup aimée, je ne vais pas vous la spoiler, mais cette séquence est amorcée de manière étrange. C'est que... Comment bien expliquer sans trop spoiler, c'est que on dirait que c'est un récit dans le récit et on se demande pourquoi vraiment ça arrive là maintenant. Ça donne l'impression de cut, de coupure au niveau du scénario et qu'il manque certains éléments pour approfondir la bonne compréhension. Et justement, ça peut peut-être jouer sur les relations entre les personnages comme j'ai pu l'évoquer. Après, restez bien hein, jusqu'à la première post-scène générique hein, qui amorce la suite de l'univers Marvel cinématique. Mais bon, pour autant, est-ce que c'est vraiment un immanquable ou quoi que ce soit ? Pour moi, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, pas accroché à du Marvel. Là, c'est bien le premier que j'ai envie de me reprocurer en version physique. Et... la critique, hein, elle est pas non plus des plus dingues. Hein, surtout son box-office, même pas 47 millions pour son démarrage. C'est pas des beaux scores, c'est même un des pires démarrages de l'univers cinématographique Marvel. La fatigue super-héroïque était là, on peut se poser la question. Et à tel point que, c'est vous dire, même Disney, hein, Marvel Studios, réfléchirait à l'éventualité de faire revenir l'équipe d'Avengers d'origine pour un nouveau film. Pour vous dire hein, que la machine est vraiment en train de prendre mal. Hein, c'est vraiment, on arrive au terme d'un cycle, peut-être, à moins que des productions à venir puissent rehausser le niveau. En tout cas... je vois que le temps passe, j'aimerais encore beaucoup vous en parler, notamment au niveau de la post-production, où Nia DaCosta parlait que Kevin Feige avait un peu trop la main mise, et du coup, ça ressemble plus à la vision de Kevin Feige du film que de la sienne, et en plus, elle, comme ça se fait souvent sur certains de ces gros blockbusters, elle a dû quitter la post-production pour se concentrer sur son prochain long-métrage à venir. Enfin bref... Il y a beaucoup de contexte et ça mériterait vraiment une grosse discussion autour. Et encore une fois, moi, si vous êtes pour ce genre de débat, ça sera avec grand plaisir que nous pourrions nous y atteler dans les studios de Radio Larzac. Attention!
Pleasure to announce to this lovely room full two new faces. One could be more cheerful, but nonetheless we ring the bells to usher in who pretend none other than 1, 2, 3 the
Thank you.
I have with my dance partner this time.
Young, we are all in danger.
The captain needs a help.
Darben is coming.
Oh, Alana's not afraid of her.
This is something else, this is new. She's become too strong.
But we can push her back, defend our home.
I'm sorry, but you're wrong.
Now wait a moment. Are you telling me that there is nothing that I can do?
Invite her down, put her feet on the ground. Give me a chance here before it gets
so
too messy.
So lead the wolf inside the walls and trust that you alone can't stop on our
way. Have I ever let you down?
C'était Voices of Aladna, de la bande originale de The Marvels. Du coup, c'est un extrait de cette musique chantée, comme j'ai pu l'évoquer dans l'avis sur The Marvels. Ben voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire pour ce second épisode de la saison 11 de Showtime. J'espère que, au niveau du rythme, de la construction, tout ça, que je m'en serais un petit peu mieux sorti que sur le premier épisode qui était un petit peu chaotique au niveau technique. Car oui, comme je n'ai pas plus à en dire, cet épisode de Showtime touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup plaisir à le faire, à faire toutes ces recherches. C'est vraiment dans cette direction-là que j'aimerais projeter mes futurs projets, à savoir vous parler un petit peu plus pré-production, production des films, revenir un petit peu sur les réalisateurs, ce genre de choses. Bon, là, j'ai beaucoup parlé de l'univers cinématographique Marvel, mais je pense que pour ceux qui découvrent un petit peu cet univers-là, ceux qui ne sont pas habitués, ça peut permettre justement de mieux situer un petit peu ce que l'on s'apprête à visionner, un peu comme j'ai pu y faire lors d'une animation autour du film que j'ai pu proposer dans les cinémas de ma ville. Ceci étant dit, j'ai pas plus à vous dire. Merci à vous auditeurs de m'avoir écouté. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur l'émission, n'hésitez pas à m'écrire à showtime.radiolarzac@gmail.com ou oneroi.studio@outlook.com. Tant que c'est des avis constructifs pour la suite, ça ne peut faire que plaisir. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez me rejoindre dans les studios de Radio Larzac pour discuter passion. Merci justement Radio Larzac pour continuer à me diffuser, à donner sa chance au mainstream et surtout, j'ai pas plus à dire. Vraiment, merci pour tous. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.